Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Claude Guéant, incarcéré en application d'une condamnation de 2017 pour la justice. L'ancien ministre de l'Intérieur ne respectait pas les décisions prises il y a 4 ans. Yannick Agnel reconnaît des rapports sexuels avec une jeune fille de 13 ans à l'époque des faits. Mise en examen pour viol, l'ancien champion de natation nie avoir exercé toute contrainte. Valérie Pécresse saisit le CSA après l'annonce d'une interview d'Emmanuel Macron mercredi sur TF1. La candidate LR veut rétablir l'égalité des temps de parole, considérant que le chef de l'État est déjà en campagne. Le PSG et Lille tombent sur de gros morceaux pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid et Chelsea, tout simplement tenant du titre. La météo, ce sera un grand classique. Gris sur la moitié nord, ensoleillé au sud, nous détaillera Marlène Duret. L'invité éco, on s'intéressera au secteur de la beauté en ébullition à l'approche de Noël. Et puis on découvrira les unes de la presse de demain matin.
Europe 1.
Claude Guéant passe donc sa première nuit à la prison de la Santé à Paris. C'est une première pour un ancien ministre de l'Intérieur. Il a été incarcéré ce matin pour une condamnation de 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. William Molinier, que lui reproche la justice ?
Eh bien, la justice lui reproche de s'être versé chaque mois 5 000 euros de primes en liquide. Entre 2002 et 2004, Claude Guéant était alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Prime qui était prélevée sur une enveloppe destinée à récompenser des policiers méritants. En janvier 2017, il est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Il bénéficie d'un placement en liberté conditionnelle et verse depuis 3 000 euros chaque mois pour payer son amende ainsi que les dommages et intérêts. Mais voilà, la justice a estimé qu'il aurait pu payer davantage et surtout plus vite, ce que conteste son avocat Philippe Bouchet-Zelgosi.
Le problème, c'est que pour payer plus, il faut avoir plus. Et il n'a pas cet argent. Il a vendu quelques biens qu'il avait parce qu'il voulait aider ses enfants qui étaient à un moment dans une situation très difficile. Et on lui a dit, bah, finalement, il ne fallait peut-être pas aider vos enfants, il fallait d'abord favoriser le paiement de la dette de l'État, alors que lui considérait qu'en payant déjà 3 000 euros par mois, il faisait ce qu'il pouvait faire.
Et d'après le parquet national financier, Claude Guéant n'a réglé à ce stade que 36% de sa dette d'environ 190 000 euros au Trésor public. Le 9 novembre dernier, la justice a donc révoqué sa liberté conditionnelle. Son avocat va faire une demande d'aménagement de peine. Sur le papier, Claude Guéant peut rester jusqu'à 9 mois derrière les barreaux.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. La Fédération française de natation va se constituer partie civile dans l'affaire Yannick Agnel, l'ancien champion de natation mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur. La fille de son ancien entraîneur avait 13 ans à l'époque des faits et face aux enquêteurs, Yannick Agnel reconnaît des rapports sexuels, Malina Fachin.
Oui, face aux preuves visiblement accablantes des enquêteurs, Yannick Agnel a effectivement avoué avoir eu plusieurs relations sexuelles avec la plaignante. En 2016, à Mulhouse, mais aussi lors de déplacements en compétition à l'étranger. En revanche, il nie avoir forcé la jeune fille, comme l'explique Edwige Roux-Morisseau, la procureure de Mulhouse.
Il reconnaît la matérialité des faits, mais dans le même temps, il n'a pas eu le sentiment effectivement de placer cette jeune femme sous contrainte. En ce qui concerne les faits de viol, il a pour certains d'entre eux un problème, j'allais dire, de souvenir. Je pense qu'il regrette en effet peut-être de ne pas avoir suffisamment réfléchi à l'époque des faits sur cette fameuse différence d'âge.
Puisqu'on le rappelle, à l'époque en 2016, la jeune fille avait 13 ans, le double champion olympique 24, ce qui laisse penser qu'il aurait eu une emprise sur elle.
Quand on a 10 ans de différence d'âge, c'est considéré par la loi comme étant une véritable contrainte. Puis la personnalité peut-être de Yannick Agnel aussi qui a pu entrer en ligne de compte. Hein. Voilà quelqu'un qui était quand même un champion et qui avait une vraie personnalité, une personnalité forte.
Yannick Agnel, vous l'avez dit, a été placé sous contrôle judiciaire. Il a notamment interdiction de revenir à Mulhouse, où vit toujours sa victime présumée.
Manina Fachin à Mulhouse pour Europe 1. Omicron risque de connaître une croissance rapide en France, alerte le Conseil scientifique. Son impact se ferait sentir dans les semaines qui viennent. Un tout premier décès lié à Omicron a été identifié ce lundi au Royaume-Uni, où une course au rappel vaccinal est lancée. Alors qu'en France, plus de 2700 malades du Covid sont hospitalisés en soins critiques. C'est un chiffre en hausse constante depuis le début de la 5e vague. C'est l'un des plus hauts lieux de mémoire de la résistance qui a été vandalisé la nuit dernière. Le mémorial du Mont-Valérien a été dégradé, tagué de la très large inscription anti-pass, le double S reproduisant les caractères SS nazis. Depuis son déplacement en Hongrie ce lundi, le président Emmanuel Macron a vivement réagi.
Je le condamne avec la plus grande force compte tenu de ce que représente ce lieu, son histoire, cette crypte. Souiller ce lieu comme cela a été fait est indigne. Et aucun combat ne justifie cela. Aucun. Car c'est s'attaquer à la mémoire de nos combattants, c'est s'attaquer à notre histoire, et c'est tout confondre, au fond, qui plus est avec les références implicites qu'il y avait. C'est de la bêtise à l'état pur, ajoutée à une forme de profanation. Donc je le condamne à tous égards.
Et à la suite du chef de l'État, cette vive réaction également de Jean-Baptiste Romain, le directeur du mémorial du Mont-Valérien.
En fait, c'est une immense tristesse qui m'envahit. Qui peut oser s'attaquer ainsi à un lieu de la mémoire, salir, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, salir la mémoire de ce millier d'hommes exécutés, salir la mémoire de ces centaines de familles qui sont venues se recueillir sur ce lieu. Au Mont-Valérien, c'est la première fois que nous avons un geste de cette taille-là, visuellement, et avec un message politique qui est derrière. Des dégradations, on en a eu comme tout espace public. Mais il n'y avait jamais eu une volonté de nuire directement aux mémoires qui étaient portées sur le lieu.
Jean-Baptiste Romain, directeur du mémorial du Mont-Valérien avec Wilfried De Villers. Emmanuel Macron était donc en visite en Hongrie ce lundi. Le chef de l'État savait bien sûr qu'il n'y trouverait pas son plus proche partenaire européen. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban défend un nationalisme à l'opposé de l'europhilie d'Emmanuel Macron. Mais les deux dirigeants ont chacun donné du leur. Ils ont choisi d'insister d'abord sur leurs quelques points de rapprochement, Jacques Serret.
Oui, adversaire politique, mais partenaire européen. C'est la formule consacrée par les deux dirigeants qui, devant les micros, préservent les apparences. Le Premier ministre hongrois réservant un accueil cordial à Emmanuel Macron.
La dernière fois qu'un président français est venu en Hongrie, c'était en 2007. Donc il était temps. Ceux qui connaissent Budapest savent que c'est au mois de mai qu'il fait le plus beau. Mais décembre, c'est bon pour la politique.
Bon pour la politique, car s'ils sont diamétralement opposés, Viktor Orban, comme le locataire de l'Elysée, ont des échéances électorales en avril. Législatives en Hongrie, présidentielles en France. Emmanuel Macron expédie donc en deux phrases les sujets qui fâchent.
Le respect de l'état de droit et des droits fondamentaux, du pluralisme des médias, de la lutte contre les discriminations est au cœur du projet européen. Mais je crois aussi à deux choses. D'abord, la nécessité de respecter chacun des États membres et de trouver un cheminement qui permette de nous tenir tous ensemble et respectueux les uns des autres.
Surtout, Viktor Orban approuve sur certains points les ambitions européennes du président français, comme l'Europe de la défense ou encore le développement du nucléaire.
Merci, cher Viktor, pour cet accueil.
Manière pour Emmanuel Macron d'endosser le costume de patron de l'Europe à 3 semaines de la présidence française du Conseil de l'Union. L'occasion aussi de ne pas laisser le champ de la souveraineté à Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui font du Premier ministre hongrois un modèle.
Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 en Hongrie. Une longue interview d'Emmanuel Macron sera diffusée mercredi soir sur TF1. L'entretien a été enregistré et il a déjà le don d'irriter les oppositions qui reprochent au chef de l'État de profiter de son statut pour faire campagne tout en repoussant sa déclaration de candidature. La candidate Les Républicains Valérie Pécresse, elle, a décidé de saisir le CSA.
J'ai saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne, alors même que ses adversaires, eux, doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre. Donc ça n'est pas ça ma conception de la démocratie. Je crois d'ailleurs que le gouvernement a fait interdire M. Zemmour de démission sur CNews alors qu'il n'était pas lui-même candidat. Donc je demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rétablir l'égalité des temps de parole et, j'allais dire, le fair play démocratique dans cette élection.
Valérie Pécresse avec Alexandre Chauveau. La candidate RN Marine Le Pen appelle de son côté Emmanuel Macron à mettre fin, dit-elle, au vrai faux suspense quant à sa candidature. Un secret de polichinelle s'agace à gauche la France insoumise. Mise en demeure du CSA à 5 sites pornographiques. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne à ces 5 géants du porno en ligne de bloquer leurs accès aux mineurs sous peine d'un blocage total de leur site en France en cas de non-respect de cette décision dans les 15 jours.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Joe Biden est attendu ce mercredi dans le Kentucky, frappé par des tornades historiques. Le bilan provisoire est d'au moins 79 morts aux États-Unis, dont 65 morts dans le Kentucky. Le président américain se rendra notamment dans la petite ville de Mayfield, qui est quasiment rayée de la carte. Sur place, un large mouvement de solidarité s'organise. Reportage Alexis Guilleux.
Depuis 2 jours, Paul et ses amis sont installés devant leur paroisse. Ils récupèrent couvertures et vêtements chauds et préparent burgers et hot dogs sur leur immense barbecue.
Tout le monde se demande quand l'eau et le courant vont revenir. Les gens n'ont pas les moyens de cuisiner. La plupart n'ont pas eu de repas chaud depuis 3 jours. Tout le monde veut aider. Plein de personnes se sont arrêtées pour faire des dons.
Un café à la main, Juan s'accorde une petite pause. Depuis le passage de la tornade, il déblaye les locaux de l'entreprise de son père, située au bout de la rue. et se dit très ému par cet élan de solidarité.
C'est bouleversant, ça fait du bien de voir notre communauté se rassembler, s'aider les uns les autres. Malheureusement, certains ont perdu leur maison. C'est génial de voir la collectivité aider ceux qui sont vraiment dans le besoin.
Judy et son mari sont passés en début de journée. Ils reviennent quelques heures plus tard avec plusieurs couvertures neuves.
C'est notre église. On voulait s'arrêter voir ce dont les gens avaient besoin et on est allé faire des achats. Nous avons été si chanceux. La tornade ne nous a pas touchés. On a une ferme, mais on n'a rien perdu, donc on voulait partager avec les autres.
En deux jours, ce petit stand solidaire, un parmi tant d'autres à Mayfield, a déjà distribué plus de 200 repas chauds.
Alexis Guilleux à Mayfield dans le Kentucky pour Europe 1. C'est une année record pour l'immobilier. Pour la première fois, le nombre de transactions atteint 1 200 000 achats et ventes selon le bilan annuel du Conseil supérieur du notariat. On remarque aussi de profonds changements de comportement des Français dans leurs achats, Maud Descamps.
Oui, alors si l'on regarde d'abord ce nombre record de transactions en 2021, il y a deux facteurs qui peuvent l'expliquer. Il y a un effet de rattrapage après des semaines de confinement en 2020. Et puis la crise sanitaire a eu pour effet d'accélérer la prise de décision d'achat d'un bien immobilier. Tout cela nourrit également par des taux d'intérêt très bas. Ce qui est intéressant, c'est que les Français ont acheté différemment avec un besoin de plus d'espace. Résultat, eh bien, les prix des maisons en province ont fortement augmenté, comme le souligne Peggy Montesinos, membre du bureau du Conseil supérieur du notariat.
Pour les maisons, la hausse elle est de plus 9% au niveau national, avec une hausse plus forte en province, puisqu'on est à 9,4%, et en Île-de-France, on est à plus 7%. Et puis, quand on fait des projections sur 2021-2022, on pense que la hausse des prix des maisons sera de plus 10%.
Et cette hausse du nombre de transactions a aussi eu pour effet de faire fondre les stocks, c'est ce que constatent les notaires de France. De nombreux biens qui étaient depuis un moment sur le marché ont trouvé un acquéreur ces derniers mois, ce qui devrait aussi alimenter la hausse des prix.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Les chèques énergie de 100 euros ont commencé à être envoyés ce lundi. Près de 6 millions de ménages modestes vont en bénéficier. Ils vont recevoir leur chèque au plus tôt dans les prochains jours donc et au plus tard avant la fin du mois normalement. Le taux du livret A lui va augmenter au mois de janvier. Le taux devrait intégrer l'inflation des 6 derniers mois. Le livret A qui n'a plus quitté son taux plancher de 0,5% depuis février 2020. C'est une vraie révolution qui prend forme sur le rail français. Depuis 9h ce matin, vous pouvez acheter des billets de train Paris-Lyon de la compagnie italienne Trenitalia. C'est une bonne nouvelle pour le portefeuille, concurrence oblige, car de fait, pour la première fois de son histoire, voici la SNCF concurrencée sur ses trains voyageurs. Et pas n'importe lesquels. Trenitalia s'attaque donc au fer de lance TGV sur la ligne Paris-Milan. Finit donc le monopole de la SNCF, Élise Dangean.
Et oui, parce que les trains rouges et gris de la Trenitalia emprunteront la ligne la plus fréquentée et la plus rentable de la SNCF, celle qui relie Paris à Lyon. La compagnie italienne prévoit d'ailleurs de monter en puissance sur cet axe en y ajoutant 3 allers-retours quotidiens l'an prochain, en plus des 2 Paris-Milan qui seront lancés samedi. À bord de ces trains récents, plus technologiques, plus respectueux de l'environnement, les passagers français trouveront un design italien avec de larges fauteuils en cuir et une offre de restauration elle aussi aux couleurs de l'Italie. Mais selon Roberto Rinaudo, le PDG de Trenitalia France, c'est finalement un pari gagnant-gagnant, y compris pour la SNCF.
Je dis cela sur la base de l'expérience que nous avons déjà vécue en Italie suite à l'ouverture du marché à nouveaux opérateurs. Cela a permis en fait de presque doubler l'offre initiale, d'augmenter sensiblement les volumes de passagers avec des bénéfices énormes pour tous les acteurs concernés.
Alors la bataille entre les deux opérateurs se jouera tout de même, notamment sur le terrain du voyage d'affaires. Pour séduire une clientèle business, Trenitalia a sorti le grand jeu avec une classe exécutive au préfixe de 135 euros pour un Paris Lyon, avec repas inclus et salle de réunion isolée.
Élise Dangean. Il va y avoir du poids lourd sur la route des deux clubs français qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG rencontrera le Real Madrid, tandis que les Lillois, eux, vont carrément devoir affronter Chelsea, tenant du titre. Et pour en arriver à ce verdict, il aura fallu un deuxième tirage au sort après un gros couac pour le premier, Jean-François Pérez.
Oui, c'est un épisode unique dans l'histoire de l'UEFA. Une erreur informatique s'est glissée dans la procédure très complexe du tirage au sort. Résultat, il a dû être réorganisé en catastrophe. Et contre toute attente, aucun changement pour Lille qui a hérité à chaque fois du pire adversaire, le tenant du titre, Chelsea. Joint par Cédric Chasseur pour Europe 1, le président du LOSC, Olivier Létang, a vécu l'épisode avec sérénité et un brin d'humour.
À partir du moment où il y a une erreur qui a été commise, il était logique qu'il y ait un deuxième tirage au sort, avec, je crois, si on aime les chiffres, 6% simplement de possibilité d'avoir le même adversaire au deuxième tirage au sort qu'au premier.
Ça grince bien davantage dans les couloirs du PSG. Le club parisien avait tiré Manchester United, difficile mais pas injouable. Il affrontera finalement le Real Madrid, leader du championnat d'Espagne. Un rival plus coriace sur le papier, avec de multiples histoires croustillantes à la clé. Le retour de l'entraîneur Ancelotti au Parc des Princes, les retrouvailles de Benzema avec le public français, de Messi avec les supporters espagnols, et puis l'avenir de Kylian Mbappé, qui sera libre en janvier de signer dans le club de son choix. Le Real Madrid, justement, serait le favori. Le feuilleton va animer sans aucun doute l'hiver du foot.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. La cérémonie d'ouverture des JO de 2024 à Paris se déroulera sur la Seine. Le comité d'organisation des JO vient d'en valider le principe. Plus de 160 bateaux avec à bord tous les athlètes traverseront donc Paris sur la scène. Là. Ce journal ne serait pas complet sans ce grand coup de chapeau de toute la rédaction d'Europe 1 à notre reporter Marion Gauthier. Marion qui a reçu ce soir le prix Varenne de la radio. Il récompense les jeunes journalistes les plus talentueux et Marion bien sûr en fait partie. Je vous propose de réécouter le reportage qui lui a valu ce prix le 3 juillet dernier. Marion vous emmenait en exclusivité dans une unité spécialisée de l'hôpital Robert Debré à Paris, unité qui prend en charge les mineurs étrangers minés par la drogue, parfois la prostitution. Ce sont parfois encore des enfants arrivés seuls en France. Reportage Marion Gauthier.
Tiens mon grand, tu vas te mettre dans une cabine ?
Le mot « maman » tatoué partout sur le corps. Le garçon, 18 ans, dont 6 aérés dans les rues, attend une radio des côtes. Il vient à nouveau d'être frappé. Après lui, une jeune fille apparaît les bras zébrés de scarification. 15 ans. Elle avale nerveusement des cachets blancs, ses jambes tremblent, le manque de drogue. Des enfants défilent ici, pris en charge après un séjour aux urgences, souvent pour une overdose ou des plaies ouvertes.
Ils sont de plus en plus nombreux dans des états de plus en plus terribles.
François-Henri Guillot coordonne l'aide à ces jeunes écorchés, les soins psychologiques, la réinsertion. L'éducateur s'efforce de créer une alliance, comme il dit, avec chacun d'eux.
Plus ils arrivent jeunes, plus ils sont rendus à la vie sauvage. Ils sont en hypervigilance en permanence. Vous claquez vos doigts comme ça, il va se redresser, il va regarder partout. Ce sont des enfants à qui on a volé leur enfance, leur adolescence. Et donc quand nous on les reçoit, c'est déjà leur rendre leur place et leur dire qu'on les voit, qu'on les écoute, qu'ils sont importants.
François-Henri rencontre Ali, 17 ans, qui a fui l'Algérie et la violence d'un père alcoolique avant de noyer ses angoisses dans le Rivotril, un puissant antiépileptique.
On va se voir souvent. La première chose à faire, c'est arrêter le Rivotril. Parce que le Rivotril, tu sais, c'est du poison, c'est la pire des drogues.
Direction le bureau du docteur Emmanuel Perret, psychiatre addictologue et chef de l'unité qui prescrit un autre médicament moins dangereux et dont elle réduira les doses progressivement.
Je me substitue aux réseaux qui les ont mis sous l'emprise des produits en prescrivant des produits qui leur permettent de ne pas être en manque. Et s'ils ne sont pas en manque, ils vont pouvoir se poser dans des structures scolaires.
Et parfois ça marche, comme avec ce garçon arrivé à 14 ans, une balle dans le genou, sorti de la prostitution et de la toxicomanie, aujourd'hui sevré et en CAP plomberie.
On a fait la preuve qu'on pouvait les aider, que c'est pas vain.
Ces jeunes, c'est notre avenir, répète le docteur Perret. Elle espère aujourd'hui développer son unité et l'exporter en France, hors du nord-est parisien.
Voilà, reportage Europe 1 et fierté pour Marion Gauthier, auteur de ce reportage et prix Varenne 2021 de la radio. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret, pour faire simple, Marlène, c'est gris au nord, bleu au sud. Hein. Grand classique,
un grand classique
de la
Alexandre.
Météo.
Les conditions météo s'améliorent hein, cette semaine grâce à un bel anticyclone. Pas d'intempéries en vue d'ici à dimanche. La semaine s'annonce très calme, anticyclonique, mais le soleil ne sera pas toujours au rendez-vous dans le nord, effectivement. Grisaille compacte au brouillard en matinée, suivi d'un ciel couvert en journée pour les régions septentrionales. Alors, quelques coins de ciel bleu possibles de la Vendée au Poitou-Charentes et au Berry, mais dans les autres régions de la moitié nord et dans le Lyonnais, l'ambiance va rester grise. Pas de pluie, sauf peut-être quelques bruines allées dans le Finistère, la pointe du Cotentin et le Nord-Pas-de-Calais, en raison d'une petite limite frontale. Et puis, sur le reste du pays, disons du Limousin et du Massif central au pourtour méditerranéen, ainsi que sur le Piémont et relief pyrénéen, l'ensemble du Massif alpin, les sommets des Vosges et du Jura, sans oublier le Morvan. Le soleil brillera toute la journée. À noter que dans le sud-ouest, les grisailles peuvent résister le long de la Garonne. Un petit coup d'œil sur les températures en journée. 3 ou 4 degrés attendus à Mâcon, 5 à Lyon, 7 à Colmar,
Il fera 8 à Paris, Orléans et Agen, 9 à Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Rouen, 13 à Brest, 15 à 17 quand même de la Côte d'Azur à la Corse et même 15 à 19 degrés au pied des Pyrénées.
Merci Marlène. Dans un instant sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. A tout de suite. Et bonsoir Didier Hamot.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, la semaine débute en baisse à Wall Street, Didier, avant les dernières réunions monétaires de l'année.
Oui, ça baisse. Le Dow Jones cède 0,89%. 35 651 points, ça s'est même accentué en fin de journée. Le Nasdaq perd 1,39%, 15 413 points. La réserve fédérale américaine réunit son conseil pour la dernière fois de l'année cette semaine, avec pour mission de piloter au plus juste un resserrement monétaire progressif sans affoler les troupes. Ça donne quand même des baisses ce soir assez nettes sur des valeurs qui étaient bien montées. Du côté des technologiques, Apple repère 2% après ses records de la semaine dernière. 175,74 $. Amazon, moins 1,5%. Microsoft, moins 0,9%. Tesla perd même 5%. 966 $. Le secteur de l'aérien s'inquiète de nouveau du variant Omicron et de ses conséquences sur le tourisme. On a Boeing en baisse de 3,7%. Delta Airlines, moins 3,4%. American Airlines, moins 5%. United perd plus de 5%. Le pétrole aussi recule de près de 1%, 71,34 $ le baril. Seul l'euro campe toujours autour des 1,13 face au dollar ce soir.
La bourse de Paris, elle aussi, a perdu du terrain avec le secteur de l'aérien.
Oui, pareil, moins 0,7%, même scénario. 6 942 points, comme à Wall Street. Les investisseurs attendent les orientations monétaires de la Banque Centrale Européenne, cette fois, puisqu'il y a la Fed et la Banque Centrale Européenne qui vont s'exprimer cette semaine. Les valeurs sensibles à la progression donc du nouveau variant Omicron ont nettement reculé et tout le secteur de l'aérien est en baisse. Air France, KLM, moins 3,3%. Safran, le motoriste, moins 3%. Et puis Airbus perd 2% à 103,08 €.
Exception du jour, le titre Carrefour qui est encore recherché.
Encore une fois, plus 2,5%, ça remonte pratiquement à 16 €, toujours sur fond de spéculation en vue d'un rapprochement possible avec le groupe Auchan, qui a déjà été évoqué en bourse après l'échec de la proposition de rachat lancée par le Canadien Couche-Tard sur Carrefour. Carrefour qui grimpe ce soir donc de 2,5% à la clôture. Les autres places financières sont en baisse. Madrid, moins 0,5%. Londres, moins 0,8%. Zurich, moins 0,3%. Et donc le CAC 40 en baisse ce soir de 0,7%. 6 942 points.
Merci Didier Hamot.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'invité éco.
Le monde de la beauté dans les starting blocks pour cette période de Noël qui approche. L'invité éco ce soir, Emmanuel Guichard, directeur général de la Fédération des entreprises de la beauté. Il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Emmanuel Guichard.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le délégué général de ce qu'on appelle la FEBEA. Alors c'est quoi? C'est la Fédération des entreprises de beauté. Vous rassemblez 350 entreprises, un petit peu plus de 80% de TPE-PME. Comment ça se présente ces fêtes de Noël alors qu'on n'arrête pas de parler de cinquième vague fulgurante?
Alors les fêtes de Noël se présentent bien. C'est surtout une période très importante pour les parfumeries, par exemple, puisque 25% du chiffre d'affaires est réalisé entre novembre et décembre.
Quand vous dites ça se présente bien, ça veut dire quoi? C'est que par rapport à 2019, on retrouve le même dynamisme ou on fait peut-être même mieux?
Alors on a une dynamique positive sur à peu près toutes les catégories. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Notamment le parfum, où on est à peu près à plus 8% sur l'année. Et l'ensemble des catégories sont positives. On a juste toujours le maquillage qui est impacté à moins 4% et l'hygiène qui est légèrement en négatif. C'est pas si mal et c'est une des bonnes nouvelles de l'année à l'approche des fêtes. C'est que les Français et les Françaises ont envie de se faire plaisir, envie de faire plaisir avec des cadeaux. Et donc, on est porté par cette dynamique et cette envie de consommer nos produits français au moment des fêtes.
C'est important ce que vous venez de dire, Emmanuel Guichard. Les Français ont envie de se faire plaisir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants là, sur l'antenne d'Europe 1 qui nous disent ça, que le panier moyen, d'une certaine manière, augmente, comme si on consommait peut-être moins de produits, mais de meilleurs produits plus chers. Parce que on se dit, on en a tellement marre que cette année, on se fait plaisir. C'est le leitmotiv que vous voyez?
Nous, ce qu'on voit, c'est surtout une avancée de Noël. Alors, Noël, ça reste le 25 décembre. Hein, ça, y a pas
il paraît, il paraît.
mais on a une consommation qui est plus tôt. On a le Black Friday, hein, de toute façon, qui tire la consommation. La semaine du Black Friday, c'est le même niveau de vente que les quelques jours avant Noël. Donc, vous voyez, ça nous crée un pic de consommation plus tôt. Et puis, on a un certain nombre d'indices sur une consommation qui commencent plus tôt et un envie de consommer, c'est par exemple les calendriers de l'Avent. Vous voyez, on a beaucoup plus de
calendriers. Il paraît que c'est un carton dans le monde de la cosmétique depuis quelques années, que ça n'arrête pas de s'accélérer, c'est vrai ?
Oui, ça marche bien et je pense que ça correspond à des attentes de consommation. Ça correspond à se faire plaisir tous les jours avec un petit objet, un petit échantillon, un petit test. Et ça correspond aussi à commencer plus tôt cet événement festif qu'est la période de fin d'année.
Alors par ailleurs, vous êtes dans un environnement où les marques françaises et les groupes français sont très importants. Je le disais, vous avez beaucoup de TPE-PME, je crois plus de 80% de vos adhérents. Est-ce que le Made in France, ça fait vendre ? Et est-ce que vous voyez dans cette vague actuelle une sorte de tendance à la relocalisation ?
Alors, le Made in France, ça fait vendre, ça fait d'autant plus vendre en cosmétique que le secteur de la cosmétique française est leader mondial. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où on est leader mondial, donc on peut quand même s'en féliciter. Et ça fait vendre à la fois pour la technologie que nous avons dans les produits, il y a un vrai savoir-faire français, et aussi par l'image, et notamment en Asie, l'image de la cosmétique française est vraiment une image très premium, très romantique, et ça contribue à nos exports.
Et qui doit pas mal évoluer, parce que s'il y a bien une demande, et notamment des plus jeunes consommateurs et consommatrices, c'est la transparence sur les ingrédients que l'on peut trouver dans les différents produits de soins, dans la cosmétique, et notamment dans la cosmétique Made in France. Comment accélérer encore là-dessus et répondre à cette demande qui est chaque jour plus importante ?
Alors, cette demande, qui est une demande environnementale globale, elle est très forte. 74% des Français attendent des entreprises cosmétiques qu'elles s'engagent sur la protection de l'environnement. Donc, c'est notre première demande. On n'est pas vraiment sur un levier marketing, on est vraiment sur une demande de fond de transformation de l'industrie. Et, par exemple, sur l'information du consommateur, la transparence. Nous, l'association FEBEA, on a lancé une application qui s'appelle Claire et qui permet de décrypter tous les ingrédients dans les produits cosmétiques. Et donc, nous, on fait le pari de la transparence totale. Vous scannez les ingrédients et sur chaque ingrédient, vous avez une fiche qui vous dit qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qui est bien dans cet ingrédient, ce sur quoi on s'interroge.
Alors, vu que c'est la fédération des entreprises de la cosmétique qui l'ont créée, on peut être sûr qu'elle est réelle, je veux dire qu'elle n'est pas trafiquée, cette application Claire, C-L-A-I-R-E.
Exactement, donc l'application Claire, elle est basée sur des informations qui sont vérifiées, objectives. C'est souvent des informations officielles, hein, puisque tous les ingrédients cosmétiques sont autorisés. Et il y en a beaucoup, puisqu'on a plus de 25 000 ingrédients. Et donc, le but de cette application, c'est de permettre à chaque consommateur qui a des questions d'aller au fond de son questionnement et de pouvoir concrètement voir ce sont les ingrédients. J'ai un exemple assez clair, assez simple, hein, si vous voulez. C'est un ingrédient avec un nom barbare qui est le trocophérol. On a souvent des questions sur qu'est-ce que le trocophérol. En fait, le trocophérol, c'est la vitamine E.
Oui, effectivement, c'est plus simple de dire de la vitamine E. Alors, vous l'avez esquissé d'un mot, là, Emmanuel Guichard, mais c'est aussi peut-être le mouvement le plus important du moment dans cette filière cosmétique, c'est la transition écologique, puisque ça induit tout, ça induit de vérifier ce qu'on met dedans, ça change le packaging, ça change les paquets qui entourent tout cela. Et c'est ça la grosse révolution, avec notamment la disparition annoncée, là aussi, du plastique.
Exactement. Avant, quelque part, le consommateur était surtout intéressé par les formules. Maintenant, il est surtout intéressé par l'emballage. Et donc, collectivement, le secteur de la cosmétique s'est engagé dans un plan qui s'appelle le Plastic Act, qui est un plan d'action pour des emballages cosmétiques durables. Collectivement, donc petites entreprises, grandes entreprises, on anticipe le besoin de réduction d'emballage plastique par des actions concrètes. Mais au-delà de la réduction, on a aussi des attentes fortes sur le réemploi des emballages, sur le recyclage, sur l'utilisation de plastique recyclé.
Ok, tout ça, c'est effectivement les points de l'avenir. Un grand merci, Emmanuel Guichard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la FEBEA, la Fédération des entreprises de la beauté. Un grand merci d'avoir été ce soir avec nous sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel Dutheil, on vous retrouve également avec Elisabeth Assayac de 13h à 14h pour La France Bouge. Sur Europe 1, votre invité sera demain le patron d'Intersport.
C'était l'invité éco avec BNP Paribas. Levée de fonds, entrée en bourse et développement international, choisissez la banque référente des entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Rapide coup d'œil aux unes de vos quotidiens pour demain, mardi 14 décembre. L'Opinion d'abord vous promet les secrets du match de Valérie Pécresse avec Emmanuel Macron. La candidate LR entend bien se concentrer sur son affrontement avec le chef de l'État. Entre eux, durant le quinquennat, écrit l'Opinion, le courant n'est pas vraiment passé. Dès dette et déficit s'invitent dans la bataille présidentielle. Le Figaro rappelle que l'Assemblée va voter ce mercredi le dernier budget du quinquennat qui se trouve être en déficit de 153 milliards d'euros. Le redressement des finances publiques sera donc au cœur des débats pour 2022. Enfin, l'argent perdu de l'ISF. Libération révèle comment de riches familles et industriels français auraient mis à l'abri depuis plus de 10 ans 4 milliards d'euros au Canada via un ingénieux système de trust. 22h et bientôt 31 minutes sur Europe 1. Olivier Delacroix nous rejoint. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre.
Comment allez-vous Olivier ?
Écoutez, tout va bien, comme un lundi.
Comme un lundi, vous n'aurez pas de vendredi cette semaine.
Non, ni de jeudi.
Ni de jeudi.
Oui, ben oui, ça sent
ça arrive,
les vacances.
C'est des choses qui arrivent, hein, oui, pour le meilleur.
Oui, oui, très bien, très bien. Comment allez-vous ?
Ça va très bien.
Bon, comme un lundi aussi ?
Comme un lundi, exactement.
En pleine forme, le week-end a été bon.
Trop court, mais très bon.
Bon, très bien. Mais écoutez, j'espère qu'il en est de même pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et puis, on vous retrouve à 23h pour le flash.
À tout à l'heure.